L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt à aller dans la parole de Dieu? Amen. Êtes-vous encouragé d'être un enfant de Dieu ce matin? Amen. Moi, je suis encouragé. Vous savez, Dieu est bon. Et Dieu a des grands plans pour son Église. Et nous faisons partie de ces grands plans-là. C'est merveilleux. Ce matin, le thème du message, et en fait, c'est une série de messages qu'on intitule « La réforme aujourd'hui ». La réforme aujourd'hui. Et peut-être certains d'entre vous vous posez la question, comment ça on parle de réforme? On parle de la réforme de l'Église. Et nous savons qu'il y a eu une réforme dans le 15e siècle. Vous avez entendu parler de Martin Luther, sûrement. Et là, on se dit, bien, c'est fini, la réforme. C'est le passé. Mais en fait, c'est faux de penser que la réforme est terminée. Même si nous pensons souvent que la réforme est terminée, c'était le commencement de certaines choses que Dieu a faites dans l'Église, gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur veut continuer à faire parmi nous. Et on a besoin de vivre une réforme de l'Église évangélique que nous avons aujourd'hui. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va prendre du temps un petit peu à voir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Entre autres, mon épouse Mathilde a eu deux rêves, il n'y a pas si longtemps. Et je lui ai demandé de venir partager les rêves qu'elle a reçus de la part de Dieu, parce que nous croyons que Dieu parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous donne des rêves, le Seigneur nous parle et il nous donne ses stratégies pour l'avancement du royaume de Dieu parmi nous. Alors, je vais inviter mon épouse Mathilde. Vous pouvez l'accueillir chaleureusement. Et Mathilde va venir partager un petit peu ce que le Seigneur lui a donné. En passant, ma femme a eu beaucoup de rêves, même le fait avant d'aller en Alberta, Mathilde avait eu le rêve qu'on était pour habiter là-bas. Moi, à l'époque, j'ai dit, c'est un rêve de pizza, je connais pas un chat en Alberta, mais ma femme l'avait reçu à l'avance. Même le fait qu'on était pour partir, le Seigneur lui avait montré à l'avance en rêve. Le Seigneur a parlé souvent à Mathilde par des rêves très précis. Et souvent, elle se réveille et puis là, elle me raconte ses rêves. Des fois, c'est pas c'est quoi exactement l'interprétation, puis moi, je reçois l'interprétation comme elle parle, puis des fois, en tout cas, c'est un échange comme ça, et des fois, le Seigneur lui donne l'interprétation en même temps. En tout cas, on parle ensemble de ces choses-là, mais le Seigneur, il parle aujourd'hui, il parle à son Église, et ce matin, j'ai demandé à mon épouse de venir expliquer deux rêves qu'elle a reçus concernant l'Église aujourd'hui.
Bonjour tout le monde. Les deux rêves que j'ai faits sont étroitement reliés dans leur signification, mais ils sont imagé de façon vraiment différente. Le premier rêve que j'ai fait il y a plusieurs mois, celui-là, c'était un rêve où mon mari et moi, on se retrouvait ensemble avec le pasteur Jean et son épouse Martine. Et on s'est retrouvés, on était dans un hôtel, dans la salle à dîner d'un hôtel. Et il y avait, dans la salle à dîner, il y avait plein d'enfants, maigrichons. Sur les tables, il y avait plein d'assiettes vides. Et les enfants étaient affamés. Et puis là, ils nous ont vus entrer dans l'hôtel, puis ils disaient, « Nourrissez-nous, nourrissez-nous, on a faim, on a faim. » Et on était, en tout cas, dans mon rêve, j'étais vraiment remplie de compassion pour ces enfants-là. J'étais vraiment triste. Et en tout cas, on a pris des mesures pour les nourrir. Et ensuite, le rêve se poursuit qu'on est dans un ascenseur et on monte longtemps. Et quand les portes s'ouvrent, je me retrouve dans une pièce immensément large et haute, très, très, très éclairée, comme si on était au ciel. Et dans cette pièce-là, il y avait tout ce dont on a besoin pour prendre soin d'un bébé, d'un nouveau-né. Literie, ameublement, les petits meubles d'appoint, la nourriture, vêtements, tout, tout, tout. Et je me suis réveillée. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et je me trouvais en face d'un monsieur qui était nain, un nain. Évidemment, c'était un adulte, il avait une barbe, et il n'y avait aucune colonne vertébrale, aucun muscle et aucun tonus. Donc, vous imaginez qu'il avait à peine à se tenir debout. Alors, ce nain-là, en plus d'avoir de la misère à se tenir debout parce qu'il n'y a aucun muscle, aucune colonne et aucun tonus, essayait de tenir dans ses bras un gros bébé nourri au lait. Il était vraiment, vraiment soufflé. Et il a manqué de l'échapper à plusieurs reprises. Et là, je l'ai aidé comme deux fois à le reprendre dans ses mains. Et là, à un moment donné, il manque vraiment de l'échapper. Le bébé part et moi, je l'attrape. Et quand je prends le bébé me sourit. Il y a plein de dents dans sa bouche. Plein de petites dents. Et ses dents sont toutes noircies, gariées. Et je me suis réveillée ensuite. Pour vous dire que ce dernier rêve-là, j'ai partagé ce rêve-là à l'épouse du pasteur Brandon Whitten de Toronto quand on était au cluster à Phoenix. Et ça était complètement ébahi parce qu'elle a dit « J'ai fait exactement le même rêve. » Alors, je crois que Dieu veut vraiment parler à son peuple. Alors voilà, mon mari va vous donner les significations.
Amen. Merci. Merci, ma chérie. Donc, c'est intéressant. Le Seigneur est en train de parler à son Église. Il nous parle de bébés spirituels. L'autel des enfants affamés dans la salle à dîner. Mais pour moi, tout de suite, c'était les chrétiens. Ça nous parle de chrétiens affamés. Des personnes qui ont faim pour plus de Dieu, faim de cette nourriture spirituelle. Ils ont faim pour cette nourriture. Les supplications « Nourrissez-nous », bien évidemment, c'est une faim spirituelle que les gens ont. L'ascenseur, Mathilde monte et puis là, elle reçoit, en montant plus haut, elle reçoit la provision pour ces bébés-là. Les portes s'ouvrent et elles s'ouvrent dans la lumière, donc c'est dans les choses de Dieu, la provision céleste. Et qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que tout ce qu'on a besoin pour nourrir le peuple de Dieu, ça se trouve en Christ, dans le Seigneur, dans les lieux célestes. Et bien sûr, la parole de Dieu nous vient de Dieu. Et donc, on voit ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, concernant le nain, pour moi, ça me disait tout ça, c'est une maturité limitée par le moule. Même si ça fait 25 ans, peut-être que le monsieur existe, peut-être 30 ans, il y a une limitation. Peu importe qu'est-ce qu'il va faire, il est limité par son moule. Il y a un ADN, c'est impossible pour lui de grandir plus grand à cause de ce moule-là. Ça va nous parler beaucoup du moule de nos églises en ce moment. Sans colonne, sans muscle, ni tonus, ça nous parle ici, encore une fois, d'un manque de la parole de Dieu, donc il est sans force, sans puissance spirituelle. C'est une personne faible, même s'il est grand, il n'y a pas cette force ou cette résistance. Il essaie de tenir un gros bébé. Vous savez, quelqu'un vient d'accepter le Seigneur, lui-même est faible dans la foi, et puis là, il y a un nouveau qui arrive, il ne peut pas donner qu'est-ce qu'il n'a pas reçu. Donc, le bébé aussi est lourd pour lui, lourd à porter. Il ne peut pas non plus lui donner la nourriture convenable pour ce bébé-là. Et c'est pour ça que même s'il est censé manger, cet enfant-là, il est rendu à l'âge où il devrait manger, bien, il est encore au lait et puis ses dents sont cariées et sont noires. Le bébé sourit. Et c'est ça, il y a la révélation de ses dents, nourri au lait. Il aurait dû manger du solide il y a très longtemps. Alors ça, c'est deux rêves que Mathilde a reçus. Et je crois que ça nous parle de l'Église aujourd'hui. Pas seulement l'Église francophone, mais l'Église même au-delà. Parce que quand Mathilde a expliqué, Sharon Whitten, l'épouse du pasteur Brandon, a reçu ce même rêve-là, ça nous parle au-delà de notre Église ici, au-delà de l'Église du Québec, mais l'Église en général, qu'il y a un manque à quelque part dans la croissance de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, on va se pencher vers tout ça. Mais là, concernant l'Église francophone, le Seigneur, cette semaine, m'a donné à cœur d'aller dans un monastère. Je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Pendant 2-3 jours, je ressentais dans mon cœur l'appel de Dieu d'aller visiter un monastère en région. Et les deux premières journées, ça brassait dans mon cœur, mais j'y allais pas parce que j'étais occupé. Et puis ça me tentait pas en fait, ça me tentait pas d'y aller, vous dire honnêtement, mais ça restait là dans mon cœur. Et finalement, 3 jours plus tard, quand l'appel de Dieu est encore là, j'ai cédé, puis j'ai dit « Ok, Seigneur, je vais y aller ». Je m'en allais au monastère, je me suis assis dans une chapelle et je peux vous avouer, je me sentais tout à l'envers. Spirituellement, je me sentais pas bien. Et je disais au Seigneur, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ici? Pourquoi je suis ici en ce moment? Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? » Et le Seigneur m'a dit, il dit, « Je veux que tu vois ce que je vois. » Comme j'étais assis là, j'ai dit, « Ok, Seigneur. » Là, je regardais autour de moi dans cette chapelle et je voyais les gens. Puis là, je me suis dit, ah, ben Seigneur, oui, ce sont des âmes précieuses. Tu veux sauver ces gens, Seigneur, tu veux les toucher. Oui, Seigneur, je vais te prier pour eux. Mais c'était pas juste ça. Le Seigneur m'a fait remarquer une chose. Il dit, regarde bien les gens. Alors, je regardais les gens Et qu'est-ce que j'ai constaté et qu'est-ce que j'ai entendu dans mon esprit, c'est que ces gens-là ne sont pas vraiment différents de les gens dans mes églises évangéliques. Il n'y a pas grande différence entre ces gens-là et les gens dans nos églises évangéliques. Et je peux vous dire, ça m'a parlé. Et ce matin, c'est pour ça qu'on va prêcher sur la réforme, parce que la réforme n'est pas finie. La réforme, je vais vous lire un petit peu, juste vous donner un contexte sur la réforme que j'ai pris de Wikipédia. La réforme débutant au 15e siècle et culminante au 17e siècle soulevait la question du salut. Amen, vous êtes d'accord avec ça? On a entendu parler du salut par grâce, n'est-ce pas? Nous connaissons tous le salut par grâce, que nous sommes sauvés, c'est gratuit, nous n'avons rien à faire pour le gagner ou le mériter. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Nous avons reçu cette révélation-là, le corps de Christ, l'Église a reçu cette révélation-là concernant le salut par grâce à ce moment-là. Certainement, ça a été prêché avant, mais il y a eu une réforme et un réveil dans l'Église où les gens ont commencé à vraiment comprendre que finalement, le salut, le ciel, c'est gratuit. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui dans nos églises évangéliques. Nous comprenons ça, c'est une vérité qui a été restaurée. Les réformateurs qui dénonçaient le commerce des indulgences profitaient de l'essor de l'imprimerie pour faire circuler la Bible en langue vulgaire, à l'époque en allemand, et en montrant qu'elle ne fait mention ni des prières aux saints, ni du culte de la Vierge, ni du purgatoire. Vous êtes tous au courant, bon, il y a eu cette réforme où Martin Luther, par exemple, aurait dit, OK, ce n'est pas dans la parole de Dieu qu'on doit acheter des prières ou prier à Marie, faire ces choses-là. Le purgatoire n'est pas dans la parole de Dieu. Ça fait partie de notre histoire au niveau de la réforme. Et c'est ça qu'on a reçu, et c'est merveilleux. Ce sont des vérités que nous avons reçues à ce moment-là, et nous sommes bénis aujourd'hui avec cette connaissance-là. Et là, on s'est assis, disant, nous sommes arrivés, et voilà, l'Église aujourd'hui peut continuer avec cette réforme, et là, l'Église est OK. C'est là où on en est présentement. Mais là, je vais vous inviter à tourner dans Hébreux chapitre 5 et le verset 12. On va commencer Hébreux chapitre 5 et le verset 12 à 14. Ce matin, on va avoir du bon temps dans la parole de Dieu, parce que je crois que c'est un temps spécifique pour l'Église de Jésus-Christ dans le monde. Pas juste pour la francophonie. Oui, certainement, on fait partie de cette réforme du Saint-Esprit. Mais, en même temps, je crois que ça va au-delà de cette région, au-delà de la francophonie. Mais dans le monde chrétien en général, nous devons vivre une continuité de la réforme qui a commencé. Et nous ne sommes pas arrivés à cette place où nous pouvons dire, c'est fini, nous avons tout compris. Dieu est encore à l'œuvre. En fait, nous avons reçu un message partiel du salut. Ça, c'est une des choses. Un message partiel du salut. Dans le sens que nous avons cru, que nous avons été pardonnés nos péchés, et c'est vrai, mais nous avons limité le salut au pardon des péchés. Mais quand nous comprenons que le salut, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan, nous comprenons, c'est ça, véritablement, le salut. Le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, mais c'est d'être délivré de l'œuvre de Satan. Amen? Amen. Ça, c'est super important parce que je vais vous dire, dans plusieurs églises, les gens peuvent vivre sous la domination de Satan et nous n'avons pas de problème avec ça. Mais nous devons vivre une réforme, enfants de Dieu. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, commençons au verset 12 dans la Bible du Semeur, il est écrit: « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres. » Et dans le grec, ici, c'est « didaskalos » qui veut dire « un enseignant ».« Après tout ce temps, vous devriez être des enseignants dans les choses de Dieu. » Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin non de la nourriture solide, mais de lait. Verset 13, « Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole. » Remarquez le mot « expérience de la parole » qui enseigne ce qu'est la vie juste. « Car c'est encore un bébé. » Verset 14, « Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer. » Dites « distinguer. » ce qui est bien de ce qui est mal. » Je vais lire maintenant dans Louis II, verset 14. Ça dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou pour les adultes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, la réforme est nécessaire aujourd'hui parce que nous avons reçu seulement une portion du message du salut et c'est important d'avoir tout le conseil de Dieu concernant le salut. Amen. Il y a une chose très importante aussi, c'est que dans nos églises, il y a beaucoup de faibles dans la foi parmi nous, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez choisir aujourd'hui de devenir fort. Vous pouvez choisir de devenir fort. Peut-être vous vous dites, moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, mais je crois que le rêve que Mathilde a reçu concernant les nains ou un homme qui est un nain, je crois que ça peut se référer à vous aujourd'hui. Mais heureusement, vous n'avez pas cette limitation sur vous parce que le Seigneur veut vous restaurer complètement. Peut-être ça fait 30 ans que vous êtes sauvé et peut-être ça fait 30 ans que vous habitiez dans un corps de nain, mais le Seigneur veut faire de vous des géants spirituels. Amen. Le Seigneur veut restaurer par la parole de Dieu. Et une des choses qu'il nous appelle à faire, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu. Dieu nous appelle en tant qu'enfant de Dieu à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va discerner à notre place, c'est nous. Lorsque nous cherchons sa face, il va nous parler par son esprit. Il va nous montrer clairement ce qu'on doit faire, ce que nous devons croire. Et nous sommes également responsables de faire attention à ce que nous mangeons. Lorsque nous sommes des bébés spirituels, nous ne faisons pas attention, nous mangeons n'importe quoi. Un petit bébé, ça se promène à quatre pattes et ça mange des biscuits soda qui sont craqués, ça peut manger d'autres choses qui sont à terre. Il mange n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais vous êtes appelés à devenir des adultes où vous allez discerner et vous allez dire, moi, je mangerai pas telle nourriture spirituelle. Le problème dans nos églises évangéliques, en grande partie, c'est que nous mangeons d'un buffet, mais avec toutes sortes de choses, des bonnes choses et des mauvaises choses, un petit peu de bien, des enseignements de la foi, un petit peu des enseignements sensationnistes. Le sensationniste nous dit que Dieu est à la retraite, il ne fait plus de miracles aujourd'hui, il ne fait plus des grandes choses aujourd'hui. Il est à la retraite spirituelle. Mais nous sommes responsables devant Dieu de faire attention à ce que nous mangeons. Si vous voulez être bâti dans votre foi et devenir un adulte spirituel, vous devez discerner ce que vous entendez, enfant de Dieu. Faites attention, vos oreilles ne sont pas des poubelles. N'écoutez pas des enseignements qui vont vous dire comment Dieu vient vous voler, vous égorger, vous détruire, parce qu'on se trompe de personne. Ça, c'est Satan qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire. Donc, faites attention, ne mangez pas de la vérité et du poison en même temps. C'est super, super important. Il y en a certains d'entre vous, je mentionnerai pas la revue, mais il y a des gens qui vont lire Le Triomphe de la foi, c'est une nourriture qui bâtit la foi, et en même temps, ils vont lire une revue qui dit carrément le contraire, et ils vont avoir les deux dans leur temps avec Dieu. Ça fait pas de sens, enfant de Dieu. Ça ne fait pas de sens de lire des choses qui se contredisent et s'attendre qu'on va être mature en Christ et mature et savoir comment répondre quand vient le temps de répondre, comment être bâti dans la foi. C'est super important, enfant de Dieu, qu'on puisse devenir mature. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. En passant, ça se peut que je vous dérange puis ça se peut que je vais vous brasser un petit peu. Amen. Ça se peut. Mais aimez-moi quand même parce que moi je vous aime. Et si je prends le temps de vous en parler, c'est parce que le Seigneur veut voir des colonnes dans son église. Le Seigneur a besoin de voir des gens qui sont pas encore séduits par tout vent de doctrine, qui savent pas qu'est-ce qu'ils croient. Oh, Dieu est bon, oui, mais pas tout le temps. Qui sont toutes mélangées. C'est temps que ça finisse, enfant de Dieu. C'est temps qu'on arrive à une place où on sait vraiment qui est notre Dieu et on va le défendre, on va défendre sa réputation et on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Ça, c'est super important. Faut arriver à une place où on croit Dieu et on le défend. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33, ça dit, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si vous êtes confus, vous posez plein de questions sur Dieu et vous comprenez pas, vous lisez la parole de Dieu et vous voyez les promesses de Dieu, mais vous lisez des revues qui vous disent que les promesses de Dieu ne sont pas pour vous, il y a un problème là. Faites du ménage, enfant de Dieu. Ne vous exposez pas aux choses qui vont toujours vous donner un combat spirituel, mais devenez mature aujourd'hui et dites « Moi, je vais bâtir ma foi et je vais protéger ma foi. » C'est comme un athlète qui va dans un gym. Il va prendre toutes sortes de protéines, il va prendre peut-être des shakes, il va faire toutes sortes d'affaires pour être fort. Mais est-ce qu'il va prendre une poutine en même temps et un sac de chips et un gros, une grosse liqueur avant d'aller s'entraîner? Ben si oui, il a probablement pas l'air d'un athlète. OK? Mais si c'est un athlète consacré, il va faire attention à ce qu'il mange. Donc, il n'y a pas de confusion en Dieu. Un autre texte qu'on va lire ensemble, je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Moi, je suis convaincu, le fruit de ce message aujourd'hui, que ça va donner, là, vous allez prendre une décision que vous allez grandir. Et savez-vous qu'est-ce qui va me réjouir? C'est que je vais pouvoir compter sur vous. S'il y a une nouvelle personne qui arrive, je vais pouvoir vous faire confiance que le pasteur n'est pas obligé de porter tout le monde sur mon dos parce que vous êtes assez mature puis vous connaissez la vérité sur Dieu. Moi, c'est mon espoir. Vous savez, Dieu veut nous envoyer plus d'âmes. Et on prie, ça fait des mois, on dit, Seigneur, envoie-nous les personnes qui ont soif. Envoie-nous les personnes qui ont soif. Mais les personnes qui sont ici, qui sont de cette assemblée, ils doivent être matures. Et s'il y a des gens qui disent, oh ben le Seigneur est en train de me donner tel ou tel problème pour m'aider, je vais avoir des gens matures qui vont dire, non, mon frère, ma sœur, c'est pas Dieu ton ennemi. Dieu est pour toi, il est pas contre toi. Amen. Dieu se cherche des colonnes dans son Église. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Versets 11 à 15. Et aussi, c'est une autre chose, une fois qu'on a eu la révélation de qui Dieu est et ce que Dieu veut faire pour nous, c'est impossible de reculer en arrière après. C'est impossible. Si on recule, c'est parce qu'on n'a jamais reçu la révélation de qui Dieu est. Une fois qu'on comprend, c'est impossible de reculer. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Ici, ça dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » On vient de lire ici que Dieu a donné les cinq ministères à l'Église en vue, pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Donc, vous êtes tous appelés au ministère, enfants de Dieu. Peut-être pas comme pasteur, mais vous êtes appelés à être un ministre de Dieu, à aider quelqu'un dans l'édification du corps de Christ, les bâtir dans la foi, être un sujet d'encouragement pour les gens. Verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus au mélange de la foi, non, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » La connaissance du Fils de Dieu, on connaît Dieu par sa parole. À l'état d'homme fait ou adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, dites plus des enfants, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous sommes censés de grandir enfants de Dieu. Amen. Nous sommes censés d'être dans une croissance constante. Si vous ne grandissez pas, faites du changement aujourd'hui. Si vous grandissez pas, vous apprenez rien dans votre vie chrétienne. Vous avez besoin de changer des choses. Ça fait 25 ans, vous avez rien appris de nouveau sur Dieu. Je peux vous dire que vous avez besoin d'une résurrection. Parce que Dieu est vivant, Dieu parle constamment. Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Si vous n'apprenez rien, vous avez besoin de vous consacrer à Dieu et dire, Seigneur, peut-être j'ai besoin d'être sauvé aujourd'hui. Je fais pas rire personne. Non, mais c'est vrai. Dieu est vivant. On apprend constamment en Dieu. On apprend constamment. Moi, j'arrêterai jamais de grandir. Moi, mon désir, c'est de m'approcher de plus en plus de Dieu. Si vous avez cette soif, ce désir, ben gloire à Dieu, vous êtes à bonne place ce matin. Amen. Parce que nous voulons tous connaître Dieu davantage. Amen. Donc, Dieu se cherche des colonnes dans son Église. Donc, nous devons prendre la décision de ne plus être des enfants spirituels. Amen. Nous avons enlevé certaines doctrines. Si je reviens un petit peu à la réforme, nous avons enlevé des choses mauvaises. Oui, c'est vrai. 1 Timothée 2:5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Nous avons compris qu'il y a un seul médiateur. Ce que nous avons fait, nous avons dit, on va arrêter maintenant de prier à Marie et de prier au Saint. C'est bon ça. Amen, je suis d'accord. On prie à Dieu, on prie à Jésus. C'est lui qui est notre source. C'est pas les défunts, c'est pas notre grand-père, notre grand-mère. C'est Dieu notre source. Amen. On a compris ça lors de la réforme. Mais nous avons conservé plusieurs mensonges qui sont en fait des idoles qui retiennent l'avancement de l'Église aujourd'hui. C'est ça que j'ai reçu de la part de Dieu cette semaine, comme j'étais assis au monastère et je regardais. C'est que j'ai vu que ces gens-là et les gens dans nos églises sont pratiquement à la même place au niveau de la liberté qu'ils vivent. Il y a autant de religions dans nos églises évangéliques. Il y a autant de gens dans la défaite. Il y a autant de gens dans la dépression. Il y a autant de gens dans la pauvreté, dans la misère et toutes ces choses. Et la vie abondante dans nos églises évangéliques n'est pas vraiment, est pas plus évidente qu'ailleurs. Pourquoi ça? C'est la faute de Dieu? Non. Ah, ben, c'est un bon groupe. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 14, ça dit, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Ce matin, ce qu'on va faire, on va se pencher pendant quelques temps sur l'idolâtrie dans nos églises. Et je vais vous dire, ça sera pas un message pour vous décourager. Au contraire, vous allez dire, « Moi, je vais faire du ménage. » Savez-vous pourquoi nous sommes à même place, à bien des niveaux, sur bien des plan spirituel, si on regarde, si c'est vraiment semblable, peut-être notre âme est sauvée, on s'en va, notre esprit est sauvé, on s'en va au ciel. OK, peut-être on a reçu le message par grâce, et c'est merveilleux, c'est glorieux, on est sauvé, au moins on a ça. Au moins on a ça. Mais c'est pas assez de dire, ben là, au moins on se rend au ciel. C'est comme la réforme, on se rend au ciel, on est correct maintenant. Mais imaginez, le Seigneur veut vous sauver à chaque jour aussi. Il veut vous sauver des œuvres de Satan dans vos vies. Donc, on a besoin d'une réforme pour dire, écoute, c'est bien de dire un jour je me rends au ciel, mais aujourd'hui, pendant que je marche sur cette terre, est-ce que je peux vivre plus du ciel aujourd'hui dans ma vie? Oui, c'est possible pour moi. Donc, j'ai besoin de vivre une réforme. Et savez-vous pourquoi qu'on a ce problème-là où on voit les deux peuples évangéliques et la religion de cette nation? Si on voit que c'est vraiment semblable, c'est parce qu'il y a les mêmes racines qui n'ont jamais été enlevées de parmi nous. Dans nos églises. Les mêmes racines sont là. On n'a pas fini le ménage spirituel, il faut continuer. L'idolâtrie, ça c'est une des choses qui reste parmi nous. Et la première chose, le premier point concernant l'idolâtrie, on va voir, c'est l'exaltation de l'opinion humaine, malgré le rapport biblique. Ça fait partie de nos racines évangéliques, enfants de Dieu. Écoutez très bien, l'exaltation de l'opinion humaine malgré le rapport biblique. Ça veut dire, si Dieu a dit quelque chose, nous, on a cette place dans nos cœurs où on a dit, moi, je me réserve le droit de dire le contraire de Dieu. Ça, enfant de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on s'élève au-dessus de la parole de Dieu. Et on dit, je m'en fous de ce que Dieu a dit, moi, je pense que. Et ça, c'est dangereux. On a besoin d'enlever ça de nos églises, enfants de Dieu. L'idolâtrie. Ce matin, peut-être que vous n'avez pas le goût de vous réjouir, mais à la fin, vous allez avoir le goût. OK? Je vais vous le dire tout de suite. Dans Romains 3, verset 4, vous pouvez prendre en note les versets. Ça dit, « Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. » Dieu dit toujours vrai. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je me souviens, il y avait un temps, je faisais des émissions en direct, les gens me posaient des questions sur plein de sujets. Il y avait une fois, j'avais enseigné sur la guérison divine. Et une des choses qu'on peut vraiment voir dans le corps de Christ, où on a vraiment besoin d'être renouvelé et d'être libéré, c'est au niveau de nos croyances, au niveau de la guérison divine. J'avais des gens qui appelaient l'émission, c'était une émission de télévision en direct. Les gens disaient, eh bien, oui, Dieu dit ça, mais moi, je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que. Puis là, une personne appelle, deux personnes, trois personnes. Après là, l'émission d'une heure, j'ai dit, mais coudonc, qui croyez-vous? Croyez-vous Dieu? Moi, je vous donne la parole de Dieu, des versets. Vous me donnez vos opinions. J'ai vu à ce moment-là qu'on a un sérieux problème dans le corps de Christ. Parce que nous ne croyons pas Dieu. Nous croyons nos opinions et nos expériences. On a exalté ça au-dessus de Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie, enfant de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. La tradition, ça fait partie de l'idolâtrie dans Marc 7, 13. Là, je continue. Vous pouvez perdre votre temps dans le café du commérage et de vos opinions. Savez-vous, il y a des personnes qui vont s'inviter. Ils vont dire, ben, on va prendre un petit café ensemble. Mais pendant le temps où ils vont prendre leur café, au lieu de bâtir leur foi avec la vérité de la parole de Dieu, ils vont parler que de leurs opinions. Qu'est-ce qu'ils pensent? Le pasteur a dit tel verset, mais moi, je pense que c'est comme ça que ça marche. Moi, je pense, mon opinion. Je ne sais pas, peut-être je marche sur des pieds ce matin. Peut-être je dérange des gens. Peut-être vous dites, mais comment ça, le pasteur le sait qu'on fait ça? C'est Saint-Esprit. C'est vrai? Si vous êtes en désaccord avec moi, j'espère que c'est parce que la parole de Dieu est là. Et là, vous avez un verset, puis vous dites, ah, il a mal compris ça. Mais j'espère que ce n'est pas votre opinion. Parce que votre opinion qui s'oppose à l'opinion de Dieu, c'est un péché enfant de Dieu. Amen? Donc, faites attention. 1 Timothée 5, 13, en ça, ici, ça parlait des jeunes veuves oisives. N'ayant rien à faire, elles prennent l'habitude d'aller d'une maison à l'autre. Mais ce qui est pire encore, elles deviennent bavardes et indiscrètes. Elles parlent de choses qui ne les regardent pas. Et là, ils commentent. Moi, je pense que. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On se fait voler. Parce qu'on fait juste parler de nos opinions. Et on parle de qu'est-ce qu'on pense au lieu des choses de Dieu. Écoutez bien, quand vous parlez, voici la recette que Dieu nous donne. Quand vous parlez, Éphésiens 4, verset 29, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement, dites seulement, des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. » Quand vous parlez, c'est parce que vous voulez aider quelqu'un à être bâti dans la foi. Quand vous aidez quelqu'un, vous parlez des choses édifiantes, vous aidez les gens et ils vont grandir et eux aussi vont devenir matures dans la foi. Si vous parlez pour démolir les gens, vous parlez vos doutes au lieu de parler la foi de Dieu, vous n'êtes pas dans l'équipe de Dieu. Vous avez besoin de parler les choses édifiantes de la parole de Dieu. Et quand on va faire ça, on va être encouragé, enfant de Dieu. On va être encouragé, on va grandir. Maintenant, vous vous dites, OK, ben c'est bien, mais comment est-ce que je peux faire vraiment pour devenir une colonne dans l'Église? Je vais vous donner trois choses que vous devez faire. Vous devez prendre trois décisions ce matin pour devenir une colonne dans l'Église. 2 Timothée 2, verset 5. Vous devez être travaillant. Dites travaillant. Dieu ne récompense pas la paresse spirituelle. 2 Timothée 2, verset 15, ça dit, efforce-toi. Dites efforce-toi. Ben, vous ne dites pas tout. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Ça veut dire que la personne comprend la parole de Dieu, ne sort pas un texte en dehors de son contexte pour faire un prétexte, mais le croyant est mature, il connaît la parole de Dieu et il est capable de prendre un verset et aller voir un autre verset pour comprendre ce que Dieu dit. Et il est assez mature. Si quelqu'un lui dit « Oui, mais tel verset dit ça ailleurs, puis ça contredit qu'est-ce que tu me dis », la personne est assez instruite pour savoir « Qu'est-ce que tu me dis ?» Ben premièrement, tu sors hors contexte, ou peut-être une chose que tu comprends pas concernant les alliances. Et là, la personne est mature, la personne sait comment défendre le conseil de Dieu. Faut arriver à cette place-là. Comme on a lu tantôt le texte que les enfants de Dieu étaient encore au lait, Ça veut dire que faut arriver à la place où nous allons manger du steak, enfant de Dieu. Faut devenir comme tanné de boire juste du lait. Si vous n'êtes pas tanné de boire du lait, vous allez rester au lait toute votre vie. Si vous allez au resto et c'est juste du lait qu'il y avait sur le menu, ça serait plate, n'est-ce pas? Du lait au chocolat, du lait aux fraises, du lait. Juste du lait. Dieu a d'autres choses pour vous, enfant de Dieu. Mais il y a personne d'autre qui peut choisir d'aller aiguiser ses dents. C'est vous devez prendre la décision de dire, moi, je boirai pas juste du lait toute ma vie. Je vais m'efforcer, mais ça coûte quelque chose, ça prend du travail. Efforce-toi. Ça veut dire faut prendre le temps dans la parole de Dieu. Faut écouter des enseignements. Si vous avez des questions, écoutez des enseignements pour que Dieu vous bâtisse dans votre foi. Amen. Moi, ma prière, si vous allez tous être tellement matures, je vais trouver ça tellement simple d'être pasteur ici. Parce que vous allez être mature, puis vous allez aider les gens à grandir. Aussi, bon, vous allez travailler à connaître la parole de Dieu, vous allez travailler à connaître la volonté de Dieu. Savez-vous, vous ne devriez pas être ignorant de la volonté de Dieu, enfant de Dieu. Vous devriez savoir exactement ce que Dieu dit dans sa parole concernant plein de sujets. Éphésiens 5, 17. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça, c'est votre job, enfant de Dieu, de connaître la volonté de Dieu sur plein de sujets. C'est vrai ça. Est-ce que je peux entendre un « Amen » pouvez-vous prier? Mon enfant est en route vers l'enfer. Ben, je sais pas. Peut-être Dieu veut ça. Peut-être le Seigneur veut que ton fils s'en aille dans les bars pendant quelques temps. Il va goûter au péché. Là, le Seigneur va travailler son caractère. Voyez-vous, c'est des affaires comme ça qu'on entend dans nos églises. C'est pas la volonté de Dieu que votre fils s'en aille dans les bars. Non, c'est pas la volonté de Dieu. J'entends des histoires comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous devez connaître la volonté de Dieu pour venir secourir les gens. Être mature. Amen. Éphésiens 1:9. Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. 1 Pierre 3:15, ça dit, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt. » Dites « toujours prêt. » Toujours prêt. « À vous défendre. » Pourquoi? Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous avez l'espérance d'être guéri. Puis il va y avoir 10 000 personnes autour de vous pour vous dire comment c'est impossible, comment Dieu veut que vous soyez malade. Mais vous devez être toujours prêt à vous défendre avec respect, amour, et dire, moi j'ai de l'espoir dans les promesses de Dieu. Moi je repose ma foi sur le psaume 103, et là vous citez le psaume 103. Et les gens, s'ils ne veulent pas croire la parole de Dieu, ça c'est entre eux et Dieu, mais vous, vous avez choisi de croire Dieu. Amen. Être toujours prêt. Vous devriez connaître les versets comme ça. Pas nécessairement tous les versets de la Bible, c'est impossible, mais les versets clés pour votre vie personnelle. Amen. Amen. C'est super important. Vous devriez être également un modèle chrétien. Vous devriez désirer être un modèle chrétien. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1. C'est dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si vous réalisez qu'il y a des gens qui vous regardent, qui regardent votre vie, êtes-vous prêt à dire aux gens, écoute, fais exactement comme moi et tu vas arriver au bon port. Suis-moi, fais exactement comme je fais, tu vas voir ma vie chrétienne vraiment être exemplaire, fais ce que je fais et tu vas te rendre au bon port. Êtes-vous rendu là aujourd'hui pour dire aux gens, fais comme moi? Si c'est pas oui et amen aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de dire, ok, moi là, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de m'approcher de Dieu aujourd'hui. Amen? Là, en passant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous condamner, je suis en train de vous exhorter à prendre des bonnes décisions parce qu'on ne veut pas être aux lettres toute notre vie. Amen? OK, on a vu une chose, l'idolâtrie, la première chose qu'on a vu ensemble, l'exaltation de l'opinion humaine. Là, on a pris cette décision-là qu'on va croire l'opinion de Dieu. Deuxième chose qu'on a besoin de voir, c'est l'exaltation, voici l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie dans nos églises qui règne et on va voir plein de choses, gloire à Dieu, mais l'idolâtrie, l'exaltation de la souffrance, le culte à la misère dans nos églises. Savez-vous, il y a cette doctrine médiévale. Les gens se flagellaient et pensaient qu'ils faisaient plaisir à Dieu. Le plus qu'on souffre, le plus que Dieu aime ça. Faites attention. Ça, c'est les racines nous viennent, c'est des doctrines de démons, enfants de Dieu, qui sont encore dans nos églises. Si ça vous dérange ce que je vous dis, il y a des chances que vous êtes influencés par ça aujourd'hui. Mais savez-vous, on va voir ce que Dieu dit. On a déjà dit qu'on va croire l'opinion de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous allez croire la parole de Dieu? On va voir la souffrance qui est permise de Dieu et la souffrance qui n'est pas permise de Dieu. On va voir ça dans la parole de Dieu. Vous allez le voir. Je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile où nous marchons constamment juste dans un jardin de roses. Non. Il faut être équilibré. Il faut connaître la parole de Dieu. Mais il faut faire attention qu'on soit vraiment détaché de ces racines-là qui ont fleuri pendant des années dans nos églises évangéliques. Qui n'ont jamais été coupés. On a dit non, on prie pas Marie, mais on peut souffrir en Titi, puis c'est correct. C'est vrai, mais c'est contre le caractère de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu, enfant de Dieu. OK. 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 8. En passant, il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment de valorisation. Quand ils souffrent, ils se sentent bien. Ils aiment la pitié des gens. Et vous savez, si vous avez besoin d'amour, ben gloire à Dieu, Dieu va vous en donner. Vous n'avez pas besoin de souffrir le martyre pour être aimé des gens et pour avoir de l'attention. Dieu vous aime, on vous aime, on va vous aimer en parfaite santé, enfant de Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui disent, ben moi, si je souffre, le plus que je souffre, oh, je fais pitié. Non, non, moi, je fais plus pitié que toi. Non, non, c'est moi qui fais plus pitié. Et là, on fait pitié, 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 et on souffre, puis là, oh, je rends gloire à Dieu parce que je souffre. Non, c'est pas de Dieu du tout. 1 Pierre, je ne moque pas les gens là, en passant. Je veux vous aider aujourd'hui, OK? Je veux vous aider qu'on puisse tous grandir ensemble. 1 Pierre 5:8, ça dit soyez sobres, veillez, dites veillez. Pourquoi pensez-vous que Dieu veut qu'on veille? Bien, parce qu'on a quelque chose à discerner, parce que nous ne sommes plus des bébés avec les yeux fermés, on se promène à terre, on mange n'importe quoi. Non, on veille, on examine, on discerne. Amen. Donc, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, pas votre ami, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Dites résistez-lui. J'aime ça. Dites-le encore. Là, cette fois-là, avec conviction. Bon. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On va voir ces souffrances-là. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voici maintenant. Vous savez, j'avais à cœur de reprendre des choses que j'ai enseignées il y a 2 ans à l'Assemblée. Il y a 2 ans, j'ai prêché sur le chrétien non comestible. Et j'ai passé à travers plusieurs versets qui nous démontraient comment Satan voulait complètement détruire l'Église et comment le Seigneur veut nous protéger de ces choses-là. Et j'avais à cœur ce matin de ramener des choses parce que vous savez, on a plusieurs nouvelles personnes qui sont à l'Église qui comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'on enseigne ici. Et des fois, on peut écouter avec des Q-tips dans les oreilles. Parce qu'on entend des choses, puis là, on dit « ouais, mais il y a d'autres versets qui disent telle ou telle chose. Ouais, mais ». Mais vous savez, on peut enlever les « ouais, mais » et dire « amen » à la place. Parce que vous allez voir ce que Dieu dit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, les souffrances des saints de l'Ancienne Alliance. On va regarder dans Hébreux 11, verset 13. On va commencer là. Hébreux 11, verset 13. J'espère que vous êtes encore avec moi. Vous n'avez pas trop faim. OK, on va voir 2 types de souffrances. Il y a seulement 2 types de souffrances dans le monde. Il y a la souffrance reliée à la bénédiction et il y a la souffrance reliée à la malédiction. 2 types de souffrances et on va comprendre les 2 types ce matin. Hébreux 11, verset 13, ça dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Il y a des gens qui vont prendre ce texte-là pour dire, tu vois, il y a des gens qui meurent dans la foi et ils reçoivent pas les promesses de Dieu. Donc, toi, ne t'attends pas de recevoir les promesses de Dieu. Tu peux être dans la foi puis mourir comme ça. OK? C'est ça que les gens disent. Ça, c'est hors contexte. Parce que, on va le relire, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On parle ici des croyants de l'ancienne alliance. Abraham, OK? Sarah. On parle de ces gens-là. Sans avoir obtenu les choses promises. Ici, on parle de la venue du Messie. On parle de la venue du Messie et de son royaume. Il y avait des choses promises, mais ils ne l'ont pas vu. OK, on continue. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils savaient un jour que le Messie viendrait. Ils ont eu leur foi dans la croix avant. Et nous avons la foi dans la croix d'hier. Amen. Mais on a tous la foi à la même place. Nous croyons dans le Seigneur Jésus. Mais on ne peut pas prendre ce texte-là pour dire, n'attendez-vous pas de recevoir les promesses de Dieu. Hébreux 11, ça c'est dangereux quand on prend des textes hors contexte. Amen. Voici maintenant les souffrances inévitables. Inévitables. Savez-vous que en tant que croyant, vous allez souffrir dans le monde? Vous allez souffrir dans le monde. Est-ce que ça vous tente de glorifier Dieu ce matin? Alléluia, on va souffrir. Peut-être pas. Ça vous tente moins, là? Est-ce qu'il y en a qui vous avez le goût de faire un party de souffrance aujourd'hui? Puis dire, wouhou! Alléluia, la souffrance. Non. Ça nous tente pas, mais il faut les connaître ces versets-là. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 12, ça dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Amen. Si vous voulez marcher dans la droiture et vous aimez le Seigneur Jésus, vous ne marchez pas dans le compromis, vous allez être persécutés. Vous serez persécutés et c'est souffrant. Je l'ai vécu à l'âge de 5 ans à l'école, quand j'ai commencé à aller à l'école, les enfants se moquaient de moi, OK, et j'ai souffert, mais je suis content de l'avoir fait et d'avoir marché avec Dieu. Donc ça, c'est une souffrance inévitable pour l'enfant de Dieu, celui qui s'affirme vraiment. Si vous êtes un chrétien top secret, il n'y a pas un chat qui le sait, peut-être vous ne verrez pas beaucoup de persécution. Matthieu chapitre 10, versets 22 et 24. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. haï de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 24, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Donc, si Jésus s'est fait persécuter, nous aussi, on peut s'attendre à vivre des persécutions. Il y a des gens qui vont parler dans notre dos, il y a des gens qui vont nous haïr, et ça fait partie du territoire du chrétien. OK? Il y a personne qui a le goût de faire un party encore, là? Voici d'autres versets. Je vous donne tous les versets de la persécution, là. Vous allez être full connaissant sur la persécution. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16, ça dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, là remarquez le verset 15, remarquez ici, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Vous venez tuer quelqu'un, oh, en tout cas, moi je souffre pour le Seigneur. Je m'excuse, c'est faux ça. Non, vous ne souffrez pas pour le Seigneur, vous récoltez la souffrance parce que vous avez commis un péché. Faut pas mélanger les choses. Et des gens, c'est comme, j'ai commis l'adultère, ma femme m'a laissé. Oh, Seigneur, m'éprouve vraiment de ce temps-ci, là. Je sais pas, le Seigneur, il fait toutes sortes d'affaires, là. Il est contre moi. Et je m'excuse. C'est pas le Seigneur, c'est toi, c'est de ta faute. Amen. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Quelqu'un qui se mêle pas de ses affaires, qui se ramasse avec plein de problèmes. Puis là, le monde, ah, comment ça Ginette a dit que Jacqueline a fait ça? Ou que Gertrude, ah, Gertrude a dit ça? Ah ben, oh ben là, Jacqueline, faut que j'appelle Jacqueline? Mais non, c'est Ginette qui a dit ça. Ah ben, faut que j'appelle Ginette. Puis là, après, tout le monde, il s'appelle. Puis, ah ben, t'as dit ça? Puis là, oh, on dit les problèmes. Seigneur, m'éprouve de ce temps-ci. Là, c'est le diable aussi, je pense, le diable est contre moi, là. Puis, voyez-vous, c'est ça, là, c'est pas à cause de Dieu, là. C'est à cause de vous. Amen. Alléluia. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre, comme chrétien, qui n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Si je me fais persécuter pour le nom de Christ, ben gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK? Parce que 1 Pierre 2, 19, ça dit, en effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Dans Louis II, ça dit, c'est une grâce de Dieu d'être persécuté pour le nom de Christ. On n'a pas le goût d'être persécuté, mais c'est une grâce, c'est un privilège parce qu'il y a des récompenses avec ça. Amen. Ça, c'est une souffrance qui est permise de Dieu. Amen. C'est pas le cœur de Dieu. Dieu souhaite pas que les gens soient méchants avec vous. Dieu, c'est pas un mauvais père. Il souffre pas dans les oreilles des gens. Hey, enferge donc mon enfant, là. On va lui montrer une petite leçon. Enferge là. Oui. Traite les dons de loser, là. Traite les dons de loser. C'est pas le cœur de Dieu. Non, Dieu n'aime pas ça. Mais ça fait plaisir si vous souffrez pour lui. C'est fait plaisir parce que vous ne le reniez pas. Comprenez-vous? C'est simple comme de l'eau de roche, n'est-ce pas? La souffrance que Dieu permet, c'est ça. L'apôtre Paul a souffert dans la mission pour Christ. Si vous êtes appelé à aller dans un pays, le tiers-monde, peut-être vous allez souffrir pour Christ. Peut-être il y a de la persécution si vous êtes dans un pays anti-chrétien. Peut-être vous allez souffrir pour Christ. C'est une souffrance inévitable. Je vais vous donner les références parce que je veux continuer à avancer rapidement. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 5. Vous pourrez voir les souffrances que l'apôtre Paul a vécues. On se cache pas de ces choses-là. Il y a une souffrance quand on s'affirme pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 26. 2 Corinthiens 11, 24 à 26. 2 Corinthiens 4, 8 à 9. 2 Timothée 3, 11. Je vais vous lire juste ces textes-là. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. L'apôtre Paul a dit ça. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi en Christ. Amen. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Amen. 2 Timothée 3, 11, ça dit, « Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Et chaque fois, dites chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. » Amen. Ça, c'est des souffrances permises de Dieu. Gloire à Dieu. Hey, on a quasiment fini. Dites Alléluia. Maintenant, d'autres souffrances que Dieu va permettre. D'autres souffrances. La souffrance à cause de l'héritage du Seigneur. Vous avez reçu un héritage en tant qu'enfant de Dieu et vous pouvez souffrir à cause de l'héritage. Ça vous réjouit, ça? Non, hein? Marc 10, verset 29 à 30. Marc 10, 29 à 30, ça dit, « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, donc à cause du ministère, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Vous quittez votre maison, vous quittez votre terre, vous quittez votre famille pour la cause de Christ. Dieu va vous récompenser. Mais avec ça, avec les récompenses, vous allez recevoir des persécutions. Parce qu'il va avoir des jaloux. Comment ça, il est béni de même, lui. Des jaloux. Vous allez vivre des persécutions à cause des gens jaloux. Êtes-vous prêt à le vivre, ça? Il y en a qui ne me dérange pas, moi. Des terres, des maisons, tout ça, ne me dérange pas. OK. Romains chapitre 8, 17 à 18. Ça, c'est le dernier verset que je vais vous lire ce matin concernant la souffrance. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Là, on dit Amen. Houhou, et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Moi, je veux m'affirmer pour Jésus. Si les gens me persécutent, si j'ai toutes sortes de choses contre moi à cause, j'aime le Seigneur Jésus, je vais vivre avec. Je vais souffrir pour le Christ comme ça. Amen. Ce sont les souffrances que le Seigneur permet. Là, qu'est-ce qu'on a besoin de voir? C'est les souffrances que le Seigneur ne permet pas pour ses enfants, que nous avons laissé entrer dans nos églises évangéliques et on a dit, allez, les souffrances, c'est le party des souffrances, souffrons, et le plus qu'on souffre, le mieux qu'on va être. Là, c'est temps que ça l'arrête, c'est là où on a besoin de vivre une réforme. On fait juste commencer en plus la série. On va en déraciner des choses, on va déraciner les mensonges. Amen. Maintenant, on va aller dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, et je vais lire le verset 15. Voici la malédiction. Tantôt, on a dit, OK, il y a deux sources de souffrance ou deux raisons pourquoi on peut souffrir. Il y a la bénédiction. On vient de lire les versets. Quand vous êtes béni de Dieu, vous pouvez être persécuté et souffrir pour la cause de Christ. Mais l'autre persécution, c'est relié à la malédiction. Notre problème dans nos églises, c'est que nous avons reçu la malédiction dans nos vies, pensant que c'est un cadeau de Dieu. C'est là où nous devons discerner. On doit discerner, être mature. Amen. Deutéronome 28, on va lire juste le verset 15, et je vais faire le résumé parce que ça serait trop long de tout lire. Si vous voulez voir la bénédiction, vous lisez le début de Deutéronome 28, mais à partir du verset 15, là, on voit tout comme être maudit. Vous voulez être maudit? Faites ceci. OK. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ses commandements et ses lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. On n'aime pas ça. Voici, je fais un préface. Ce que je vais vous lire, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Joel Spinks. Je vous lis pas une revue de quelqu'un, là. Je vous lis la parole de Dieu. Croyez-vous la parole de Dieu? Ici, on va lire la malédiction, c'est exactement ceci, OK? Verset 18, la pauvreté. Verset 20, la menace. Verset 21, l'épidémie de la peste. Aimez-vous ça, la peste? Non, moi non plus. Les fièvres, les inflammations, le dessèchement, la jaunisse, la gangrène, verset 22. La sécheresse, verset 24. La défaite militaire, les ulcères, les hémorroïdes, la gale, les pustules incurables, verset 27. La folie. L'aveuglement, l'égarement d'esprit, le vol, vous pourrez trouver d'autres malédictions si ça vous tente. Il y a un beau menu de malédictions disponible pour vous. En passant, vous allez lire ce texte-là et ça dit « Dieu enverra, Dieu fera telle ou telle chose ». Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a enseigné il y a quelques semaines. Dans l'Ancien Testament, quand on parle « Dieu fait telle chose », en fait, c'est un verbe qui nous dit « c'est pas la cause, mais il permet ». Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a enseigné les autres semaines parce qu'on bâtit précepte sur précepte, n'est-ce pas? Donc, vous rappelez, quand ça dit « Dieu fait telle ou telle chose » dans l'Ancien Testament et quand c'est une malédiction, vous êtes certain que Dieu a permis au destructeur de venir faire telle ou telle chose. Rappelez-vous. Je vous donne encore juste deux versets pour vous rappeler de ça. Exode 12, verset 23, OK, qui dit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, rappelez-vous, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, c'est-à-dire, et verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Le destructeur. Il ne permettra pas au destructeur de le faire. OK? Dans 1 Corinthiens 5:5, en parlant de l'homme qui était dans le péché, un homme incestueux, ça dit qu'un tel homme, l'apôtre Paul dit qu'un tel homme incestueux soit livré à Dieu. Non, soit livré à Satan pour la destruction de la chair. OK? On voit ici, c'est qui le destructeur? C'est Satan. Faut pas se mélanger entre les deux. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Là, je sais que je marche ce matin et je pisse sur des orteils de la tradition. Je marche sur des orteils et je dérange peut-être des esprits religieux. Mais heureusement, je vous dérange pas vous. Juste les esprits qui veulent vous empêcher d'avancer. Juste ces esprits-là. Ça vous dérange? On les dérange ensemble, ces esprits-là? Ou vous voulez être encore dans l'église de vos pères? Vous voulez être encore ancré dans ces racines de mensonges? Qui règne encore dans nos églises évangéliques où on n'a pas encore mis la hache pour couper ces choses-là. Moi, là, je veux déraciner ces racines-là. Moi, je veux que les gens ici, vous soyez vraiment dans la parole de Dieu. Qu'il n'y ait aucune racine du passé, des anciennes choses, de la flagellation chrétienne, là, que ça ne fait plus partie de nos croyances, ça. Ça fait longtemps qu'on ne devrait plus croire ces choses-là. On n'est plus dans l'église médiévale ici, là. OK, on continue. Dans nos églises, on a vécu la souffrance de la malédiction. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a accueilli ça, on a souffert et on a dit, j'ai entendu une pauvre femme qui m'a dit, ben, je suis très malade, je souffre de telle maladie, mais je souffre pour Christ. Je m'excuse, madame, vous n'êtes pas qualifiée pour souffrir pour Christ à ce niveau-là. Vous n'êtes pas digne de le faire. Christ a déjà payé le prix pour votre souffrance. Vous êtes une femme orgueilleuse. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, voyons. Je suis quand même fin, moi. Quand je sors d'ici, là, je suis pas méchant. Je suis juste méchant devant vous. Galates 3, 13. Écoutez, la révélation qu'on a besoin dans nos églises. La révélation, Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ l'a déjà payé. Il vous a déjà racheté de la malédiction. Et là, vous voulez avoir la fièvre et la gangrène. Puis vous dites, je vais souffrir pour Christ. Mais vous le faites pour rien. Vous le faites pour rien. Vous n'avez pas besoin de vivre la gangrène, puis la fièvre, puis toutes les autres choses, la sécheresse, l'épidémie de la peste, la menace, la pauvreté. Les ulcères, les hémorroïdes. Il y en a ici, vous voulez avoir des hémorroïdes. C'est pas pour vous, enfant de Dieu. Écoutez bien, ça fait rire du monde, mais c'est vrai. Ben moi, je souffre pour Christ. Ben pourquoi tu vas t'acheter de l'onguent d'abord? Souffle la vraie, souffle là ta maladie. 1 Jean 3, 8, mais voyez-vous comment c'est ridicule? C'est ridicule. 1 Pierre 3, 8, le Fils de Dieu a paru afin d'établir les œuvres du diable dans vos vies. Vous enseignez comment vivre la vie chrétienne en souffrant pour lui. Non, c'est pas ce que ça dit. Ça dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, pas pour y participer, enfant de Dieu. Pas pour y participer. Il participe pas là-dedans, il est venu pour détruire la malédiction dans vos vies. C'est à vous de résister maintenant au nom de Jésus. Ésaïe 53, 3 à 5, ça dit, méprisé et abandonné des hommes. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes pour vous parce qu'il vous aime. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Amen. Moi, je veux croire le rapport de Dieu. Jésus a bien fait son travail sur la croix. Il a payé la dette de mes péchés. Oui, je suis pardonné, mais il m'a également acheté ce salut parfait, la délivrance de toutes les œuvres de Satan, et c'est ça que je veux vivre dans ma vie. Nous avons besoin de vivre une réforme dans nos églises évangéliques. Ça va déranger du monde, mais savez-vous, la réforme du 15e siècle, ça l'a dérangé d'autres personnes aussi. Ça l'a dérangé du monde parce qu'ils se sont fait traiter de toutes sortes de noms. Mais je suis prêt à souffrir cette chose-là. Je suis prêt à me faire accuser d'être erroné, d'être comme ci, comme ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux croire, c'est la parole de Dieu. Moi, j'accepte de souffrir pour Christ. Mais je n'accepterai pas de souffrir la maladie parce que Jésus a déjà tellement payé cher. Il a tellement payé cher pour que moi, je ne souffre pas comme ça. Il a tout fait pour moi. Quelle insulte dans le visage de Dieu. Quelle insulte lui dire, tu as tout payé pour moi, mais moi aussi, je veux la souffrir, cette souffrance-là. Non, le Seigneur l'a fait dans son amour. Il a porté, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Amen. Et aujourd'hui, si vous êtes prêt à être libre de la tradition, libre des mensonges, de ces racines qui font partie des églises pendant des siècles et des siècles et des siècles. Quand j'étais assis là-bas au monastère, j'étais inconfortable, mais j'étais assis comme ça, puis on dirait qu'il y avait 10 000 personnes qui me regardaient. Pas un chat qui me voyait là, mais je me sentais là comme, je me sentais pas à ma place. Mais Dieu a dit, regarde ce que je vois. Et c'est temps que ça change, enfant de Dieu. C'est temps que vous soyez libérés de ces racines-là. Ça fait trop longtemps qu'ils sont parmi nous. Ces racines-là doivent être maudites. Pas vous. C'est pas à vous d'être maudits. C'est aux racines du mensonge dans nos églises qui doivent être maudites. Et là, vous avez pensé longtemps toutes sortes de choses. Là, vous avez besoin l'humilité de dire, ben, j'ai cru un mensonge. J'ai cru, je me suis fait avoir, mes parents ont cru ça. Mon ancien pasteur a cru ça. Plein de mes amis ont cru ça. Ils croient encore ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de croire que Jésus m'a racheté de la malédiction et je ne veux plus vivre la malédiction. Moi, j'ai choisi que je veux vivre et marcher dans la bénédiction. Ouais, mais t'es arrogant, pas mal. Non, moi, je veux croire Dieu. Dans l'humilité, l'opinion de Dieu à mon sujet est plus élevée que mon opinion. Je sais, moi, je mérite rien. Mais par son amour pour moi, lui, il a tout accompli. Dieu est bon, Dieu m'aime, il est toujours bon. Le psaume 145, vous pourrez le lire, c'est bon de lire ça. Comment Dieu est bon, comment Dieu veut libérer son peuple. Et là, comme nous avons des croyants ici, libres, ils marchent dans la liberté, il y a une nouvelle personne qui arrive à l'Assemblée, qui est déprimée, découragée. Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va l'encourager. On ne dira pas, « Ouais, le Seigneur, il n'a pas fini de travailler, hein? » On va voir, « Peux-tu t'écraser un petit peu plus, peut-être? » Peut-être, là, il va vraiment là, te squeezer comme du jus d'orange. Non, on va dire, « Écoute, t'es blessé, t'es brisé. Je connais celui qui peut te guérir. Je connais quelqu'un qui peut te restaurer. Tu t'es fait voler ici, puis ça, on va retourner dans le camp de l'ennemi, puis on va reprendre les choses qui t'appartiennent. Parce que là, t'as choisi Jésus, t'as choisi de faire partie du camp de la bénédiction. Amen. Ce matin, moi, je veux vous faire répéter des choses, si vous croyez. Je veux vous faire répéter des décrets où vous allez briser le mensonge dans vos vies. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. Amen. Ce matin, c'était peut-être un message difficile pour vous, je ne sais pas, peut-être pas. Mais si c'était difficile, c'est parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel et l'ennemi veut vous garder dans ses vieilles racines antiques. Mais aujourd'hui, c'est possible pour vous d'être libéré. Amen. Alors ce matin, on va prier ensemble. Amen. Moi, je vais commencer à prier pour vous. Par la suite, je vais vous faire répéter des choses. Père éternel, ce matin, on vient devant toi. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous affranchit. Seigneur, on sait que ton esprit a déjà travaillé dans l'Église. Il y a eu une réforme dans le passé. Mais Seigneur, je sais que tu te prépares à faire des grandes choses et tu le fais même aujourd'hui. Tu es en train de réformer ton Église aujourd'hui, ici dans la francophonie, même à Toronto, tu as donné le même rêve à notre sœur dans le Seigneur. Seigneur, nous refusons d'être des nains spirituels. Nous refusons d'avoir les dents cariées. Nous refusons d'être ignorants et de ne rien connaître concernant ta parole. Seigneur, nous nous engageons aujourd'hui d'être travaillants spirituels et de connaître notre héritage en toi. Seigneur, nous refusons la paraissent spirituels et nous choisissons la foi dans ta parole et dans tes promesses. Maintenant, Seigneur, je prie pour chaque enfant de Dieu qui te croit plus, qui croit leur expérience ou leurs opinions du passé. Seigneur, je prie aujourd'hui pour une liberté totale maintenant du mensonge de l'ennemi. Seigneur, j'appelle la manifestation de la bénédiction maintenant au nom de Jésus dans la vie des gens. J'appelle également une maturité dans leur vie. Seigneur, ils vont discerner les voix qu'ils entendent. Ils vont refuser d'écouter des mensonges. Ils vont refuser de te mettre en doute, mais ils vont croire exclusivement ta parole et ton rapport sur leur vie. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque frère et soeur qui s'est déplacé ce matin. Et maintenant, frères et soeurs, je veux vous demander de renoncer aux mensonges. Vous dites avec moi, je renonce le mensonge. Je crois ta parole. Je décide de devenir une colonne. Je décide de grandir. Merci, Seigneur, pour le miracle dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que je deviens un géant de la foi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je vais aider les nouveaux. Je vais leur donner du lait. Ils vont grandir. Je vais leur donner du steak. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez compris, vous avez reçu. Maintenant, marchez dedans. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.